Les enjeux internationaux.
Bonjour Thierry Garcin.
Et bonjour Guillaume Bernard. Donc comme promis, évidemment, Arménie-Azerbaïdjan, reprise des combats il y a une dizaine de jours entre les deux pays à propos donc de cette enclave du Nagorno-Karabakh. 110 morts de part et d'autre, une trêve qui vient d'être obtenue par la Russie. C'est le cas type, évidemment, d'un conflit gelé. Depuis le cessez-le-feu de 1994, qui avait suivi une guerre meurtrière, près de 30 000 morts, le Haut-Karabakh est occupé par l'Arménie. Alors non seulement le Haut-Karabakh, cette poche de peuplement arménien sur le sol azerbaïdjanais, mais aussi le pourtour, l'Arménie ayant même relié cette enclave à son propre territoire par un couloir. On remarquera qu'il s'agit d'un de ces quelques 12 territoires occupés dans le monde. Alors il semble que Moscou, allié de l'Arménie dans la région, ait mis le holà aux ardeurs guerrières. Peut-être ou sans doute pour ne pas encore plus envenimer ses relations avec Ankara. Ankara soutient avec force jusqu'au bout, je cite, la cause arménienne. L'ambassadeur russe, co-président du groupe de Minsk, qui œuvre depuis tant d'années à stabiliser la situation sans succès, a déclaré que les deux parties étaient prêtes à préserver la trêve. Et le premier ministre russe, Dmitri Medvedev, a justifié l'approvisionnement en armes de chacun des deux pays. Si la Russie abandonne ce rôle, je cite, nous comprenons parfaitement que cette place ne sera pas vacante. Ils achèteront des armes à d'autres pays. Cela pourrait détruire l'équilibre actuel. Fin de citation. Sur l'ensemble de ce dossier, vous le voyez, très important, Charles Urdjevitch, professeur émérite à l'INALCO.
C'est l'un, disons, des conflits gelés et d'une certaine manière effectivement oubliés qui mine le Sud-Caucase depuis maintenant plus de 20 ans. Et c'est un de ces conflits dont on ne voit pas très bien la sortie, dans la mesure où, d'un côté comme de l'autre, on est dans une crispation politique, identitaire, nationaliste, qui est d'autant plus tendue que chacun se sent, à tort ou à raison d'ailleurs, soutenu par une grande puissance, la Turquie, pour ce qui est de l'Azerbaïdjan, la Russie, pour ce qui est de l'Arménie. Bien entendu, les choses sont beaucoup plus complexes, et ce qui vient de se dérouler dans cette région est tout à fait caractéristique des tensions qui opposent depuis déjà quelques mois la Russie et la Turquie. Le tout, il ne faut surtout pas l'oublier, à la frontière immédiate de ce Moyen-Orient, de ce grand Moyen-Orient, puisque l'Arménie a une frontière tout à fait importante avec l'Iran.
Est-ce que, Charles Ludjevitch, il faut faire un sort à la dimension religieuse ou est-ce que ça n'est pas pertinent, puisque l'Arménie est chrétienne et l'Azerbaïdjan musulman ou musulmane ?
Non, je ne pense pas que ce soit réellement le problème. Les Arméniens ont vécu jusqu'aux tensions particuliers qui ont fracassé la société libanaise au moment de la guerre civile, ont vécu en très bonne intelligence avec les musulmans. Non, je crois que c'est que l'ennemi, il faut bien entendu y mettre de très gros guillemets, c'est le Turc et non pas le musulman. Il n'y a pas une tradition, je dirais, anti-musulmane chez les Arméniens. C'est le Turc qui est perçu comme l'ennemi dans la mesure où au moment du génocide de 1915, beaucoup d'Arméniens ont été sauvés par leurs voisins, voire par des sociétés arabes.
Alors pourquoi, il y a une dizaine de jours, pourquoi cette reprise des hostilités ? Et au fond, quelle est la logique des acteurs respectivement, donc à Bakou et évidemment en Arménie, Erevan ?
Alors les raisons, on ne les connaît naturellement pas réellement, mais on peut imaginer qu'à Bakou en particulier, voire à Yerevan, mais je m'attarderai une minute ou deux sur l'Azerbaïdjan, qu'à Bakou, on peut trouver son compte dans une montée de la tension avec l'Arménie, avec le Haut-Karabakh, dans la mesure où la société azérie connaît depuis maintenant une année et surtout depuis quelques mois des tensions grandissantes qui sont dues en grande partie à la baisse de la rente pétrolière, baisse de la rente pétrolière qui rend les rapports entre le pouvoir et la société beaucoup plus complexes, en particulier la société rurale qui est la grande abandonnée du développement et de la richesse de cette petite république. Et on peut imaginer qu'à Bakou, une montée de la tension avec le Haut-Karabakh, qui reste malgré tout au centre du discours national, nationaliste azéri, nous reconquérons le Karabakh, discours qui est tenu par un pouvoir qui dépense des sommes colossales pour l'armement, est une façon de signifier à la société que certes, il y a aujourd'hui des difficultés économiques, mais qu'il existe une priorité nationale, patriotique, qui s'appelle le Haut-Karabakh. Pour ce qui est de l'Arménie, les Arméniens avaient-ils réellement intérêt à faire monter la tension avec le Haut-Karabakh? Peut-être, mais là, je crois qu'on... Bon, personne dans cette affaire, bien entendu, n'est tout blanc ni tout noir, mais l'Arménie avait certainement moins d'intérêt à se lancer dans une telle galère, d'autant plus que ses rapports avec Moscou sont quand même très étroits et que la Russie, semble-t-il, ne tient pas particulièrement à la montée d'un nouveau conflit à quelques centaines de kilomètres de la Syrie.
Oui, elle a d'autres fers au feu, notamment l'Ukraine, mais pas seulement. Et puis, on a eu l'impression, en tout cas, la semaine dernière, que la Russie sifflait un peu la fin de la récréation, parce que, au fond, elle n'a pas intérêt à envenimer encore plus ses relations avec Ankara, qui sont particulièrement complexes et comment pourrait-on dire, difficiles.
Oui, tout à fait. Ceci étant dit, Moscou ne perd pas une occasion de signifier à Ankara que le maître du jeu se trouve au Kremlin et non pas du côté de la sublime porte, comme on appelait l'Empire ottoman auparavant. Mais c'est une histoire, je crois, très compliquée. Bon, la Turquie, Erdogan, dans la conjoncture qui est celle de la guerre en Syrie, des tensions avec les Kurdes, de la guerre même avec les Turcs, est d'une certaine manière tenté de hausser le ton. Mais a-t-il réellement la volonté... comme il l'a déclaré il y a quelques jours, de se porter au secours de l'Azerbaïdjan et de ne jamais laisser tomber l'Azerbaïdjan, je crois que ce sont des paroles un peu creuses, d'autant plus que...
Il est occupé lui aussi, oui.
Il est très occupé, c'est le moins qu'on puisse dire. Et de fait, Poutine, en sifflant la fin de la récréation, montre une fois de plus à l'Occident qu'il est un élément de stabilité et de paix dans une région... connaît de très graves incendies.
Charles Urdjevitch, je rappelle que vous êtes professeur émérite à l'INALCO. Et juste d'un mot pour conclure, quelles issues possibles sur le moyen ou le long terme, avec éventuellement des échanges au nom de population, des rectifications de frontières, où tout cela est un peu du fantasme et on va voir ce conflit gelé pendant encore beaucoup plus de temps qu'on ne croit. Quelles sont juste en deux mots, les pistes?
Les enjeux nationaux, les enjeux identitaires... Les enjeux internes sont tels qu'on imagine mal, malheureusement, le règlement de la question du Haut-Karabakh. Je pense que c'est l'un des conflits gelés les plus difficiles à régler dans le Sud-Caucase.
Charles Urdjevitch, donc professeur émérite à l'INALCO, franceculture.fr pour écouter l'émission, pour la télécharger. Puis on remarquera d'ailleurs qu'on annonce une visite un peu étrange quand même dans la région, dans ce Caucase du Sud du pape François. Il ira au mois de juin en Arménie, chrétienne mais orthodoxe, en Géorgie en septembre-octobre, chrétienne mais orthodoxe, et en Azerbaïdjan, très musulmane.